Voilà, Florian Boucanso, bonjour, bienvenue sur Radio Maria France.
Oui, bonjour, bonjour à tous.
Voilà, on va faire une découverte avec vous, une découverte d'un parcours de vie, d'un parcours de foi. Alors Florian, pour commencer, est-ce que vous pourriez voilà, peut-être revenir un petit peu en arrière sur ce parcours, sur cet avant et cet après?
Oh oui, je peux. C'est vrai que ça peut être vite long, mais je vais essayer de faire concis. C'est vrai que j'ai eu alors un parcours, je dirais, assez paradoxal, puisque j'ai connu le sport de haut niveau et le football en particulier pendant quand même près d'une dizaine d'années. Donc c'était la réalisation d'un rêve de petit garçon et donc une vie parallèlement pendant une trentaine d'années sans connaître Jésus. Voilà, bien que j'ai été baptisé quand j'étais petit, première communion, mais je dirais, voilà, comme peut-être beaucoup de jeunes aujourd'hui, c'était plutôt de manière culturelle sans que ça représente rien du tout. Et donc un parcours de vie ensuite, voilà, avec le football, le professionnel, donc avec un petit peu de gloire, entre guillemets, de célébrité, d'argent, de vie matérielle et mondaine assez facile, mais avec en même temps, ben, je dirais, un cœur qui n'était pas totalement comblé, quoi. En tout cas, moi, je suis, je crois, un assoiffé de justice et de vérité. Et en fait, à un moment donné dans ma vie, alors que le football ne m'épanouissait pas totalement, mais j'étais quand même dans une quête intérieure. Et je dirais que cette quête, elle a pris un tournant particulier quand ma carrière de football s'est écroulée à 28 ans, sans que vraiment j'y sois préparé, quoi. Et donc, à partir de ce moment-là, eh bien, j'ai peu à peu tout perdu, quoi, d'un point de vue social d'abord, et puis ensuite matériel. On a eu beaucoup d'ennuis financiers, beaucoup d'épreuves à vivre en famille. Et en fait, bah, peu à peu, ce temps-là a été vécu, je dirais, comme un temps de purification où je me suis rendu compte qu'en fait, le but de la vie, c'était pas d'avoir de l'argent et d'avoir une belle montre, une belle voiture, mais c'était déjà de se contenter de ce qu'on avait. Et donc, pendant quelques années, je me suis vraiment rendu compte que je pouvais être heureux en ayant mon épouse, mon petit garçon, un toit au-dessus de ma tête. Voilà. Et ensuite, je dirais que l'étape au-dessus est venue après, quand j'ai vraiment pris conscience, en étant sorti de ma tour d'ivoire un peu du monde du football, de l'état du monde. C'est comme si, à cette époque-là, j'avais développé une hypersensibilité à la noirceur du monde, à l'injustice qui règne et qu'on peut observer tous les jours. Et je dirais que ceci a déclenché une vraie quête de vérité et je dirais une soif d'espérance, quoi. Je voulais comprendre ce monde, je cherchais vraiment une explication, comment dirais-je, à la confrontation entre le bien et le mal, quoi. Voilà. Et je dirais qu'à force de tirer sur la ficelle, eh bien, un jour, il y a une porte qui s'est ouverte et ensuite le monde spirituel s'est peu à peu ouvert à moi et je me suis ouvert à l'hypothèse de l'existence de Dieu et ça a été le début encore d'un grand parcours.
Alors justement,
Alors,
dans ce tournant, tant d'épreuves, après avoir perdu ce qui était votre ancienne carrière, tant d'épreuves de purification, vous l'avez dit, et peu à peu, alors ça a été progressif, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des moments forts, des rencontres, un peu des déclics qui vous ont permis cette conversion?
Bah, je dirais que le plus grand déclic pour moi, ça a été je dirais pendant très longtemps, je me suis interrogé sur voilà ce que j'expliquais il y a 30 secondes, sur cette cohabitation entre le bien et le mal. Je comprenais pas. Il y avait tellement de choses qui me heurtaient dans le quotidien. Je restais vraiment, voilà, stupéfait. Et un jour, je me souviens avoir vu une vidéo sur Internet où en fait, il y a une personne qui partageait un petit peu mon ressenti face à tout ce que je décrivais, mais qui elle l'abordait avec une considération spirituelle. Et en l'occurrence, cette personne-là se revendiqua comme étant chrétien catholique. Et en fait, quand il faisait l'analyse du monde actuel et de ses dérives, en fait, je le rejoignais sur pas mal de choses. Sauf que lui, eh bien, il disait, ben, en gros, hein, mais il faut pas être surpris, quoi. Voilà, c'est ni plus ni moins que la parole de Dieu que nous éprouvons dans notre quotidien. Et je me souviens vraiment, et c'est assez drôle, mais c'est comme ça, je crois, que j'ai envisagé Dieu. C'est quand il a parlé de Satan, voilà. Et il a parlé de Satan et il m'a donné, en tout cas à moi personnellement, une origine spirituelle au mal qui me désarçonnait complètement. Et en fait, à partir de là, Dès l'instant qu'on m'a dit, ok, le mal existe et c'est peut-être donc Satan, un ange révolté qui serait à l'origine de tout ça, ça m'a ouvert une porte et ça m'a donné cette hypothèse que peut-être Dieu, lui, est l'amour, quoi, voilà. C'est en quelque sorte, hein, de manière très, très schématique, hein,
Alors
en quelques
c'est...
mots, mais moi je m'étais toujours fermé à l'existence de Dieu parce que je m'étais dit, si Dieu existe, pourquoi il y a tout ce mal? Et là, en quelques secondes, il y a une porte qui s'était ouverte, et donc j'ai basculé dans cette quête de me dire, mais peut-être que ça a un sens, quoi, cette histoire de combat spirituel caché, entre guillemets, mais que je vois dans mon quotidien, quoi, voilà. Et donc, je me suis dit, à partir de là, bon, il faut vraiment que j'en ai le cœur net. Est-ce que Dieu existe? Est-ce que moi, je ne me plante pas depuis 15 ans à balayer d'un revers de main l'hypothèse de Dieu? Et je pense que comment dirais-je, ce pourquoi pas, ce petit pourquoi pas que j'ai eu intérieurement, c'est que j'ai entrouvert la porte et à partir de ce moment-là, je pense que Dieu s'est engouffré, quoi, tout simplement.
Alors j'ai pas mal suivi les vidéos de cette personne dont vous parlez, un catholique qui est un spécialiste en géopolitique et de l'analyse aussi un peu du mal, hein. Justement, vous parliez du mal à l'instant, de la géopolitique du mal mis en œuvre par des personnes qui sont très très loin du Christ, on peut le dire, comme ça, on va dire.
Ouais, c'est ça. Mais c'est une personne voilà, qui m'a aidé comme d'autres dans mon cheminement, dans mon parcours, je dirais, à unifier le regard que j'avais, l'analyse que j'avais, à la fois sociale, politique, géopolitique, mais en y rajoutant l'élément spirituel. Voilà. Et moi, ça a été vraiment j'ai fait un bond, je pense, à partir de ce moment-là.
Il y a une révélation en fait, hein. Oui.
Ouais, ça a vraiment été une révélation de me dire que oui, mais l'être humain, il a une dimension spirituelle et c'est celle-ci qui est prépondérante. Et moi, j'étais vraiment un enfant jusque-là du matérialisme, quoi, tout simplement, à avoir une considération uniquement concrète, politique, sociale, de l'évolution du monde et des événements, sans lever la tête.
Sans la verticalité,
Et ce
oui.
qui est d'ailleurs ultra logique quand on a les yeux qui s'ouvrent un petit peu. Que rien ne peut s'expliquer dans notre quotidien si on prend pas en compte le domaine spirituel.
Alors, Florian
Alors,
Boucanso, vous aviez aussi, dans ce parcours qui est le vôtre, un lien, et je crois même avant votre conversion, un lien avec ce lieu très connu, en tout cas des catholiques, c'est Paray-le-Monial, non?
Ouais, c'est ça. Écoutez, je vous parle depuis Paray-le-Monial, où je suis à peu près à je sais pas, 500 mètres de la chapelle où Jésus a montré son cœur. Donc, ouais, c'est vie actuellement et en fait j'y vivais déjà quand j'étais petit garçon puisque mes parents sont venus s'installer lorsque j'avais une dizaine d'années et donc j'y ai vécu pendant une bonne quinzaine d'années avant de quitter la région pour ma carrière de footballeur et en fait voilà ce que je répète souvent mais ce qui permet de se rendre compte que parfois on peut vraiment être aveuglé, enfin moi c'est comme ça que je me définis à l'époque, c'est que j'ai vécu pendant 15 ans à Paray-le-Monial sans savoir du tout ce qui s'était passé à Paray-le-Monial. C'est-à-dire qu'il y a des sessions d'été à Paray-le-Monial avec des milliers de jeunes de catholiques qui viennent. Je me suis jamais vraiment posé la question pourquoi est-ce qu'ils viennent là? Je me suis jamais vraiment interrogé pourquoi est-ce que Paray-le-Monial est appelée la cité du Sacré-Cœur. Moi, ça n'avait aucune résonance en moi, quoi. Je passais très souvent devant cette petite chapelle sans que je me sois arrêté, quoi. Donc, il a fallu vraiment que je fasse cette expérience de rencontre avec le Christ pour que je découvre que le Christ était apparu à 300 mètres de là où je vivais, quoi.
Oui, c'est quand même,
C'est quand même
c'est pas anodin.
pas anodin. Ouais, c'est fou, mais ça me
C'est fou.
surprend pas parce que j'ai encore de la famille qui vit à Paray-le-Monial et eux, depuis encore plus longtemps que moi, et eux sont incapables de me décrire ce qui s'est passé de manière surnaturelle à Paray-le-Monial. Donc, bon,
Eh
voilà,
oui.
c'est assez dingue, mais c'est comme ça.
Alors, Florian Boucanso, vous avez, y a un livre donc, qui est sorti, je crois, donc c'était à l'automne de l'année 2020, donc
Ouais,
il y a
début
quelques mois.
octobre.
Hein. Le titre, c'est Es-tu prêt? Il revient. Alors, bon, il y a beaucoup de choses dans ce livre, c'est très 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 riche et vraiment je me permets de le recommander vraiment chaleureusement aux auditeurs qui ne le connaîtraient pas encore. Vous avez quand même un passage intéressant, c'est qu'au tout début du livre, vous avez un lien particulier, je crois, avec Maria Valtorta. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire?
Ah oui, c'est un lien vraiment très particulier que j'ai avec cette mystique. Moi, je dirais que ma conversion au Christ, elle n'est pas, comment dirais-je, le fruit de la lecture de Maria Valtorta, mais je dirais que j'ai découvert cette mystique et l'œuvre que Jésus a donné via Maria Valtorta 2 ans après environ. Et en fait, il se trouve qu'à cette période-là, donc je découvrais le Christ, je découvrais la foi chrétienne, et j'étais mais vraiment assoiffé de connaissances, quoi. J'avais vraiment envie de me former, de connaître le plus possible de Jésus, quoi, parce que j'avais bien compris que pour pouvoir l'aimer, il fallait le connaître. Et en fait, ma prière était tout le temps celle-ci: je veux te connaître, Seigneur, aide-moi à te connaître. Et bon, voilà, là, de manière, je pense, providentielle, j'ai été amené à découvrir ces écrits de Maria Valtorta. Il y a eu quand même un petit combat avant que je me lance à lire, puisque j'entendais toutes sortes de choses qu'il fallait pas lire, que c'était un roman, que ça pouvait abîmer la foi, qu'un tel ou un tel avait condamné. Bon, voilà, ce sont des propos qui sont assez caricaturaux, je pense, hein, quand on vraiment analyse l'histoire de cette révélation privée. Et en tout cas, au bout d'un moment, je me suis décidé à lire parce que je me suis rendu compte qu'il y avait plein de monde qui lisait, et des grands personnages de l'Église qui l'avaient lu. J'ai lu cette œuvre, et je dirais qu'en voilà, quelques jours, j'ai été convaincu de l'origine surnaturelle de ces écrits, et je me suis plongé dedans. J'ai lu toute l'œuvre en une année, et là, par contre, pour moi, cette œuvre-là, elle a été, je dirais, une rencontre encore plus forte de manière personnelle avec l'humanité de Jésus, quoi. Vraiment, je dirais que j'ai eu une conversion vraiment à Dieu, c'est-à-dire dire, bon, ok, Dieu existe, c'est le Christ, j'ai aucun doute. Mais je dirais que 2 ans après, lorsque j'ai plongé dans cette œuvre et à la suite de Jésus, parce que c'est ce qu'on vit lorsqu'on lit l'œuvre de Valtorta, on est avec Jésus quotidiennement, à vivre à ses côtés pratiquement, en étant formé directement par lui. Eh bien là, à ce moment-là, je crois avoir fait une vraie rencontre, une vraie expérience personnelle de rencontre avec le Verbe incarné.
Alors, Florian, qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur un peu la genèse de ce livre? Parce que peut-être que c'était un projet qui était comme ça dans l'air du temps, mais vous l'avez finalement concrétisé, ça.
Ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est au tout début de ma conversion, j'ai commencé à raconter mon histoire à droite, à gauche, sans que j'aie déclenché quoi que ce soit. C'était des discussions informelles. Et puis en fait, petit à petit, on m'a demandé de témoigner à droite, à gauche. Et puis il se trouve qu'à la suite d'un témoignage, il y a une personne qui m'a dit: ben, tu devrais vraiment penser à écrire ton livre. Moi, je connais un éditeur qui est spécialisé dans les témoignages. Je vais te mettre en relation avec lui. Et tout. Bon, moi, j'étais pas spécialement emballé parce que écrire un livre, je m'estimais vraiment complètement incapable, et j'avais pas envie de me mettre sur le devant de la scène, l'ancien footballeur converti qui va encore raconter sa vie. Donc voilà, j'avais pas trop envie. Et donc, après vraiment mûre réflexion, j'ai dit non à ce projet d'écriture. Non pas que je voulais pas témoigner, mais j'avais pas envie de le faire comme ça. Et donc les années ont passé, l'éditeur en question a gardé le contact avec moi, sans me forcer, mais pour savoir si j'avais évolué. Et puis donc, au final, eh bien, j'étais toujours impliqué dans le milieu du football, bien que je ne jouais plus. Et donc, j'ai quitté mon travail en 2019, là, en mars 2019. Et le jour où j'ai quitté mon travail, j'ai été relancé à nouveau par cet éditeur. Et en fait, j'y ai vu vraiment un signe de la Providence, puisque depuis quelques mois, avant justement de quitter mon travail, je commençais déjà à réfléchir à l'hypothèse d'écrire un livre, mais pas comme il avait été envisagé au départ, c'est-à-dire que je raconte ma vie, tout simplement. J'estimais qu'il n'y avait pas de contenu assez étoffé pour parler de ma vie. Par contre, j'avais vraiment envie de déballer, entre guillemets, tout ce que j'avais sur le cœur, donc de parler de Valtorta, de parler de l'époque dans laquelle on vit, et des signes eschatologiques que moi, enfin, que je trouve, comment dirais-je, assez éclatants aujourd'hui. Donc c'est comme ça que ce livre est parti. J'ai donc dit OK à l'éditeur, en lui disant que j'étais prêt à écrire un livre, mais que il faudrait pas me censurer, voilà, que j'écrirais absolument tout ce que j'ai sur le cœur et que ça serait pas uniquement un témoignage de conversion. Donc, chose que j'ai fait, j'ai mis 1 an effectivement à écrire un livre de près de 500 pages où je me demande encore comment l'ancien footballeur que je suis a pu écrire un livre de théologie, un petit peu quand même. Et en fait, une fois que ce livre a été terminé, eh bien, voilà, entre le Covid et toutes les interrogations qu'il y a eu, je pense, pour mon éditeur, il a un petit peu freiné des quatre fers en craignant que ce livre ne se vende pas. Voilà, c'était un livre de 500 pages avec la problématique des librairies. Donc, il m'a demandé de repousser la sortie du livre. Et là, moi, j'ai discerné ça dans la prière, et en méditant, je me suis dit: non, c'est pas possible, il faut que je sorte ce livre maintenant. Donc, c'était à l'époque au mois de septembre. Et voilà, la Providence avait bien fait les choses, et j'avais rencontré un créateur de site web. J'avais ça à l'esprit aussi, peut-être, de mettre ce livre gratuitement disponible sur Internet, parce que moi, je l'ai fait pour les âmes avant toute chose, hein, c'était pas pour gagner de l'argent. Et donc, on a créé un site internet, je l'ai mis gratuitement sur ce site, je me suis lancé en auto-édition, et voilà, et donc ce livre est parti depuis maintenant 3 mois. J'ai vraiment l'impression d'avoir jeté une bouteille à la mer, en me disant, bah voilà, le Seigneur va faire ce qu'il faut, il sera lu par les personnes qui en ont besoin, et puis je lui abandonne la fécondité, et c'est ce qui se passe, quoi. J'ai des retours vraiment assez sensationnels, et ce livre se répand sans aucune publicité, et alors qu'il est très peu présent en librairie, quoi.
Et justement,
Vous êtes...
Florian, est-ce que vous auriez peut-être un ou deux exemples de ces fameux retours que vous avez, retours positifs sur ce livre?
Moi, écoutez, alors ça peut paraître un petit peu vaniteux si je commençais à partager tous les commentaires que j'ai reçus. J'en ai reçu vraiment, vraiment beaucoup. Voilà. Et donc, d'ailleurs, j'en profite, ceux qui m'écoutent, pour les remercier encore, bien que j'essaye de répondre à tous. J'ai reçu beaucoup de témoignages de personnes qui me disent se sentir rejointe entre guillemets parce qu'elle partage mon intuition par rapport à laquelle voilà le temps dans lequel on est pardon pas mal m'ont dit aussi bah vous m'avez convaincu de me lancer dans la lecture de Valtorta et ça me réjouit vraiment beaucoup voilà puis après autrement il y a encore des petites pépites vous voyez j'ai reçu un mail hier matin d'une dame de 45 ans qui me dit que bah voilà elle s'était pas confessée depuis 25 ans, de péché mortel, et elle s'est rendue voilà, depuis la fin de mon livre, elle allait se confesser. Donc, c'est des petites pépites où je me dis, ouais, c'est fou quoi, d'essayer d'écrire en se disant, bah voilà, Seigneur, je te l'offre ce bouquin, tu en feras ce que tu veux, et puis que le Seigneur me permette de voir quelques-uns des fruits. Donc, voilà, gloire à Dieu. Hein. Après, ça ne m'appartient pas.
Et je crois notamment dans ces retours, notamment l'exemple aussi, je crois, d'une musulmane.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bah, j'ai reçu quelques messages de musulmans, musulmanes, oui, une femme qui lisait mon livre et qui se sentait vraiment attirée par le Christ, donc qui était en chemin et en tout cas qui me remerciait aussi parce qu'elle partageait mon regard sur l'actualité. Donc voilà, tout ça, je ne sais pas ce que ensuite les parcours de vie, hein, quel est l'impact de mon livre dans la vie des uns et des autres. Mais en tout cas, avec les retours que j'ai, je me dis que j'ai bien fait de lutter, parce que ça a été long quand même avant que je me décide d'écrire. Et je me dis que j'ai bien fait, je suis content, voilà, aujourd'hui, d'avoir produit ce livre parce que je me dis il a peut-être aidé quelques âmes.
Alors, il faut le préciser, hein, ce livre, on l'a dit au début, c'est dense, passionnant parce que, effectivement, il y a un chapitre, le premier, qui concerne votre histoire, mais comme vous l'avez très, très bien rappelé, hein, c'est pas un livre uniquement sur votre histoire et votre témoignage, même si ça occupe un chapitre. C'est qu'ensuite, on a effectivement quelque chose sur Maria Valtorta. Alors, je ne vais pas dévoiler, simplement, on sent que le problème des fins dernières aussi, de l'Antéchrist, de l'Apocalypse, est traité dans le livre. Voilà les prophéties. Donc c'est quand même très très riche, le retour du Christ. Est-ce que vous avez donc accumulé un petit peu aussi ces découvertes après votre conversion, pendant toutes ces années intenses que vous avez vécues?
Ouais, c'est ça. Mais en fait, comme je l'explique dans le livre et comme je l'ai dit brièvement, j'ai cette caractéristique, donc je pense que c'est le Seigneur qui m'a fait comme ça. Moi, quand j'ai le regard braqué dans une direction et que je m'empare d'un sujet, bah, je le fais à fond, quoi. Voilà. Et donc, voilà, le Seigneur, c'est infini, quoi. Donc, j'ai même pas encore fini, mais je dirais que j'avais cette intuition avant même de rencontrer le Christ. Que notre monde était dans une époque particulière. J'avais cette intuition vraiment que je vivais dans un temps, voilà, dans un temps spécial. Donc en rencontrant le Christ, et je dirais surtout avec l'œuvre de Maria Valtorta, qui en fait, bien sûr, c'est une œuvre extraordinaire qui nous permet d'aimer et de connaître Jésus et d'acquérir tout un tas de connaissances sur sa vie qu'on n'a pas autrement. Je dirais surtout qu'elle est d'une richesse eschatologique, cette œuvre, mais qui est inouïe. Et moi, je me désole vraiment qu'elle ne soit pas plus utilisée que ça par des gens peut-être bien plus au fait de l'eschatologie chrétienne que moi, je pouvais l'être. Et moi, en fait, pourquoi j'ai voulu écrire ce livre sur les fins dernières? Parce que j'estime, hein, déjà d'une part, c'est qu'on n'en parle pas assez dans l'Église. Voilà. Donc je me suis dit, bah, au bout d'un moment, si personne n'en parle, qu'est-ce qui m'empêche moi de le faire, après tout, voilà, sans prétendre quoi que ce soit, mais en tout cas faire ma part, tout simplement. Et puis aussi, pour répondre à ce que moi j'estimais être une vraie, comment dirais-je, un vrai paradoxe dans l'Église et un paradoxe qui a pour moi été levé par la lecture de Val Torta, de Picaretta et d'autres. C'est-à-dire que la partie eschatologique, j'ai remarqué que bon nombre de prêtres, bon nombre de théologiens sont dans une attente du retour du Christ qui coïncidera avec la fin du monde et de toutes choses. Voilà. Et en fait, moi, toutes ces lectures-là m'ont démontré que la lecture eschatologique qu'il faudrait certainement avoir davantage, ce n'est pas celle-ci, c'est qu'en fait, le Christ va certes revenir, mais pas pour clore le temps et pour signifier la fin du monde. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une ère de paix, de justice, de sainteté qui va avoir lieu dès ici-bas. Et en fait, cette lecture-là, cette analyse-là, elle est toujours balayée par la majorité en disant que c'est du millénarisme, ça a été condamné par l'Église, voilà. Et en fait, je pense qu'il y a une vraie subtilité et que la position que moi je défends et qui était celle que défendaient avant moi des grands saints comme Saint Irénée, par exemple, et qui était très très explicite, bah c'est celle-ci, quoi. C'est qu'il va vraiment y avoir, et moi j'estime qu'on est aux portes de cette ère-là, il va y avoir un royaume des justes, une ère de paix, le royaume de la divine volonté, comme Luisa Picaretta, et comme Jésus, pardon, l'a enseigné Luisa Picaretta. Et moi, j'ai voulu écrire ce livre pour ça, pour que bah voilà, les chrétiens et le monde entier soient aussi dans, bien sûr, cette espérance que la vie éternelle est là et que le ciel est là, mais qu'on doit aussi porter un regard d'espérance sur notre monde, voilà, sur notre monde. Et moi, j'estime, je crois, et à l'appui de toutes les révélations privées qui m'ont été données de découvrir, que ce temps est vraiment proche, quoi. Voilà.
Alors, ce qui est extraordinaire dans ce livre, c'est qu'il n'y a pas que l'aspect spirituel dont on vient d'esquisser quelques mots, mais il y a un aspect aussi très concret, anthropologique, également politique. Vous parlez par exemple de la destruction des nations, de la destruction de la famille, ce qu'on voit autour de nous, hein, ce qui est en cours. Donc, c'est vraiment très, très riche. On a à la fois une vision sur ce qui se passe dans notre société aujourd'hui et le sens que vous lui donnez par rapport aux enjeux spirituels.
Bah en fait, j'ai essayé de donner ce dont j'avais besoin, moi, à un moment donné. C'est-à-dire d'unifier la vision spirituelle, l'analyse spirituelle, avec l'analyse très concrète, anthropologique, sociale, politique, et d'essayer d'y donner un sens. Voilà ce qu'on vit aujourd'hui, ce qu'on va certainement vivre demain, ce qu'on a vécu hier. Et voilà ce que moi, humblement, j'estime qui est en rapport avec la nature spirituelle, quoi. Voilà. Donc, c'est mon regard de chrétien, de baptisé. Et je trouve que ça manque réellement aujourd'hui de ramener, de faire ce lien vraiment entre notre quotidien et le spirituel. Regardez ce qu'on vit depuis un an là, avec cette histoire du Covid. Bon, je ne vais pas faire de généralité en prêtant des propos ou absence de propos à des prêtres ou à d'autres, mais moi je me désole de ne pas entendre davantage la voix de nos pasteurs à relier ce que l'on vit dans notre quotidien avec le côté spirituel, quoi, voilà. Alors que pour moi c'est éclatant, quoi. On voit très bien cette emprise totalitaire qui est en train de se mettre en place et on ne fait pas le lien avec le projet spirituel maléfique, quoi. Voilà. Je trouve que c'est tellement important de donner des clés et c'est comme ça aussi, je pense, qu'on peut attirer des âmes vers le Seigneur, leur expliquer ben voilà quel lien il y a entre notre réalité et nous, la lecture de foi qu'on en a.
Alors, je suis bien d'accord avec vous, là, Florian. Effectivement, c'est de pas cantonner le spirituel au spirituel dans un coin et puis les problèmes
Exactement.
sociétaux de l'autre. Tout est lié et il faut pouvoir parler de tous ces sujets et les mettre en lien avec l'enjeu spirituel,
Exactement.
l'Antéchrist. Hein, vous en parlez aussi dans votre livre.
Ouais. Ouais, j'en parle beaucoup parce que pareil, c'est un sujet qui est absolument pas évoqué aujourd'hui dans nos prédications. En tout cas, moi, je lis très très peu à ce sujet-là. Alors que pour moi, voilà, le monde qui est en train de se dessiner, bah, devrait nous alerter grandement, quoi, avec tout ce qui est dépeint et tout ce qu'on en sait, tout ce que la tradition de l'Église nous enseigne à propos de ce personnage-là. C'est une vérité de foi, hein, bien sûr, qu'il y aura une période vraiment antéchristique. Donc voilà, j'ai voulu mettre aussi, moi je prétends pas détenir la vérité et que tout ce que je dis dans le livre est authentique. Moi j'ai voulu mettre les pieds dans le plat, c'est tout. J'ai voulu libérer une parole, j'ai voulu que voilà, les âmes peut-être puissent aussi échanger à propos de sujets qui sont, j'ai l'impression, parfois tabous, quoi, où on n'ose pas. Enfin, moi, j'ai toujours pensé, en tout cas en découvrant la foi catholique, que c'était une religion eschatologique. On est tendu, bien sûr, vers notre fin personnelle, où c'est le retour du Christ, il est pour nous, chacun individuellement, à notre mort, mais on est aussi tendu vers cette fin. Quand l'Apocalypse se termine par ce mot « Maranatha », c'est qu'on a envie que le Christ revienne.
Bien
et
sûr.
aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est limite pris pour des farfelus en disant cela, quoi. Donc,
Bien sûr.
Moi, je pense que le zèle aussi apostolique dans les temps que nous vivons, il doit être aussi porté par cela, quoi, par cette grande espérance que le mal va être vaincu et que le Christ va revenir. Et moi, je pense que c'est d'actualité vraiment de prêcher beaucoup à ce sujet-là, sans le faire un petit peu à la manière d'illuminer, mais de manière raisonnée, avec l'appui de tout ce que le Seigneur nous a donné depuis des dizaines et des dizaines d'années, notamment en termes de révélations privées. Mais ça, voilà, c'est un autre problème aussi où les révélations privées, elles sont bien souvent balayées alors qu'elles sont pour moi fondamentales.
Et oui, la religion chrétienne, c'est une religion de tourner sur la prophétie en fonction des
Exactement,
temps que nous vivons
exactement.
aujourd'hui. Et alors, je crois, Florian, vous avez aussi prêté avec votre épouse votre voix pour justement proposer des textes hein, sur la mystique Marie Valtanta.
Ouais, c'est ça en fait. Bah, moi, je suis un tel amoureux de Jésus, mais de cette œuvre, et qui a tellement chambouler ma vie, que j'essaye autour de moi d'en parler, et je me réjouis quand il y a une âme qui se dit, tiens, je vais t'écouter, je vais lire. Bon, voilà, déjà, c'est bien. Puis je me suis dit, bon, est-ce qu'on peut pas faire plus? Et un ami qui a découvert Valtorta aussi, et qui me dit, en m'écoutant lui lire un passage, il me dit, mais tu devrais vraiment enregistrer des passages et les mettre sur Internet. Bon, ça m'a un petit peu travaillé. Le lendemain, j'y réfléchissais. Et puis, pendant la messe, il m'est venu cette pensée. Hein, je ne sais pas si c'est le Seigneur qui l'a suscité, mais en tout cas, elle m'est venue. Je voyais, tiens, la parole qui donne la vie éternelle. Si je faisais une chaîne YouTube et j'enregistrais des passages. Voilà, je me suis dit ça comme ça. J'en ai parlé à Sandra, mon épouse. On a commencé à enregistrer des passages de l'œuvre, hein, d'une dizaine de minutes, des épisodes connus des évangiles, qui sont, pour ceux qui connaissent Valtorta, plus détaillés. Voilà. Et puis, on a enregistré des dictées de Jésus, enfin d'autres passages. Et puis, en fait, on s'est rendu compte que ça a pris. Les gens qui écoutaient aimaient notre façon de lire. Voilà, le Seigneur a tout fait aussi pour qu'on ait les personnes avec nous qui nous aident. Et puis aujourd'hui, on enregistre fréquemment des passages, et notre chaîne YouTube, après, je crois, de 19 000 abonnés. Donc c'est assez énorme. On a des vidéos qui ont été vues plus de 200 000 fois, je crois 300 000. Bon, donc voilà, on dit amen, quoi. Voilà, super, le Seigneur s'est servi de nous. On est assez... Enfin, moi, j'ai le vertige quand je me dis que... Voilà, le Seigneur se sert de nous pour aller toucher des âmes, ça me remplit de joie, quoi. Voilà, et je me dis, le Seigneur, il a certainement vu ma volonté de le servir et d'œuvrer pour que son don, parce que pour moi c'est un don extraordinaire, cette œuvre de Valtorta, pour qu'il soit connu et goûté par le plus possible. Et voilà, moi je lui rends grâce tous les jours de m'avoir choisi pour mener ce type d'apostolat.
Alors justement, pour ceux qui nous écoutent, nos auditeurs, on peut donc retrouver tout cela sur un site internet que vous avez lancé vous-même. Mm-hmm. Je le rappelle, c'est « Es-tu prêt, il revient, tout attaché, es-tu-prêt-il-revient.com mm-hmm. ». Et là, on trouve donc notamment ces enregistrements, c'est ça ?
Oui, il y a des enregistrements, donc la majeure partie des enregistrements, c'est Maria Valtorta. On a enregistré quelques enregistrements sur Luisa Picaretta, donc ça c'est la partie du site, et puis il y a également le livre dont on a parlé longuement, qui est accessible gratuitement en PDF, c'est-à-dire pour ceux qui n'ont pas les moyens ou qui ne souhaitent pas l'acheter, eh bien ils peuvent le lire gratuitement, le télécharger, le partager autour d'eux. Bon, ce problème c'est qu'il faut lire sur ordinateur ou sur tablette, et puis autrement pour ceux qui voudraient tenir le livre dans les mains, il est possible de le commander, donc moi je m'occupe de les envoyer et de mettre un petit mot quand on me le demande, et voilà, donc on a monté un petit quelque chose en disant on va voir Seigneur ce que tu veux faire avec ce site, et demain peut-être que je t'offrirai encore d'autres choses, on verra.
Et on peut donc également vous retrouver sur, en plus du site internet dont on vient de parler, la chaîne YouTube. Hein.
Ouais, c'est ça, la chaîne YouTube, c'est la parole qui donne la vie éternelle. Donc voilà, où c'est essentiellement des enregistrements d'épisodes de la vie de Jésus. Là, on a fait une grande série sur Noël qui a eu une certaine audience. Donc voilà, et on va continuer encore. On se laisse inspirer par le Seigneur avec les dictées ou les passages de l'Évangile qu'il veut qu'on enregistre. Et puis mon épouse et moi, très, très humblement, on se met devant le micro et on essaye de lire. Sachant que c'est pas simple d'enregistrer la voix de Jésus ou d'autres personnages, mais on le fait avec notre cœur et avec nos petits moyens.
Eh bien, en tout cas, Florian Boucanso, merci beaucoup pour ce témoignage.
Merci à vous.
Merci, vous êtes voilà pour cette évangélisation que vous menez avec voilà votre parcours qui est propre et personnel, mais qui va porter encore, je crois, beaucoup de fruits. Merci infiniment.
Merci à vous.